Bonjour, bonsoir, vous êtes sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de fait, l'émission du collectif Anarchiste la nuit, en compagnie de Nicolas,
Johnny
et Farouko.
Hey, cette semaine, c'est la semaine des grandes nouveautés. On a deux nouveaux collaborateurs qui se joignent à nous grâce à la magie d'Internet. Il y a, ben, en fait, c'est des, on a décidé d'aller chercher des collaborateurs en région parce qu'il n'y en a pas assez à Québec. Fait que, il y a tout d'abord Sam du collectif Emma Goldman à Chicoutimi.
Ouais. Saguenay, il faut dire maintenant, je pense.
Oui, à Saguenay.
Qui, le royaume de Jean Tremblay, à qui je dédie cette émission aujourd'hui.
Sam, donc, qui nous ramène un reportage de Russie, en fait. Il est allé là-bas, mais bon, en fait, bref, il va nous parler de la montée de la droite radicale en Russie. Il y a Thomas dans la région montréalaise. Je ne sais pas si vous connaissez là, la région de Montréal, c'est quelque part vers l'ouest.
Là où Jean Tremblay dit que c'est de la merde. Là.
C'est ça. Là où il y a des grands talents. Sont contre les amphithéâtres financés par le public. Donc, il y a Thomas qui inaugure une chronique, la blague anarchiste de la semaine. Alors, espérons que ça vous fera rire. Sinon, ben, pour notre part, c'est les mêmes choses que d'habitude. Moi, je vais m'amuser avec... je suis allé, en fait, cet après-midi, mercredi après-midi, à la manifestation du collectif pour un Québec sans pauvreté à Québec. Et je vais aussi revenir sur la criminalisation de la dissidence au Canada anglais.
Puis j'ose parler de la partie de l'extrême droite en Suède, puis aussi de la montée de l'extrême droite en Europe.
Et la musique, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de punk rock.
Ouais, moi je vais faire parler la musique contre la police, hein. On va commencer par Angelic Upstarts.
Wouhou!
Show.
Tout le monde l'a entendu, le budget. Tout le monde a vu comment on se fait rentrer dedans. Le gouvernement libéral fait carrément une guerre aux pauvres. Il fait la guerre aux pauvres, il fait la guerre aux femmes, il fait la guerre aux autochtones, il fait la guerre aux itinérants et itinérantes. Il fait la guerre à tout le monde qui n'est pas capitaliste. Alors, c'est la première manifestation aujourd'hui d'un automne de lutte. Fait qu'aujourd'hui, on peut être fier d'être ici pour aller chauffer les fesses du gouvernement libéral.
Hey, vous êtes toujours à Voix de Fée sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Et c'était la douce voix de Barbara Legault qui était maître de cérémonie d'une manifestation du collectif pour un Québec sans pauvreté cet après-midi à Québec devant l'Assemblée nationale. Il y avait entre 250 et 300 personnes qui étaient venues redire leur colère devant le deuxième plan de lutte à la pauvreté du gouvernement libéral, un plan de lutte qui répond à aucun de ses objectifs, à savoir faire respecter les droits et faire reculer la pauvreté au Québec. Et donc, les groupes étaient là pour dénoncer ça et ils sont passablement en colère. Mais bon, tout d'abord, on va quand même entendre Serge Petitclerc, qui est le porte-parole officiel du collectif, bien qu'il y ait un peu moins de verve que Barbara.
Lors des consultations de Sam Hamad qui ont suivi en juin puis à l'automne 2009, il y en a sûrement ici qui ont participé aux consultations, les membres du collectif et puis l'ensemble du mouvement citoyen ont revendiqué clairement que ces principes devaient former la base d'un deuxième plan de lutte contre la pauvreté. Le gouvernement était donc au courant qu'il se dégageait un consensus fort pour que le deuxième plan de lutte reprenne les principes de mission collective. Il y a des centaines de groupes dans toutes les régions du Québec qui ont repris ces revendications-là, ces principes-là, pour faire en sorte qu'ils soient inscrits dans le deuxième plan de lutte. Comme première mesure à mettre de l'avant, on a surtout exigé l'abandon des catégories à l'aide sociale. La fin du vol des pensions alimentaires. La construction de logements sociaux. Quelle a été la réponse du gouvernement par le budget du 30 mars dernier? Rien! Rien pour la majorité de nos revendications, puis des miettes pour le reste. Encore pire, on a annoncé des hausses de tarifs, des hausses de taxes, et puis un impôt régressif caché sous le nom d'une franchise santé. C'est un vol dans les poches des plus pauvres pour engraisser les plus riches, puis les amis du gouvernement. Hamad, Charest, Bachand, toute la gang ont trahi les espoirs de la population. Mais il fallait vraiment prendre le monde pour des imbéciles, pour s'imaginer que la population serait contente. Au printemps, on a montré par centaines, par milliers, puis parfois par dizaines de milliers de personnes, entre autres en avril et puis en mai, qu'on n'était pas d'accord, qu'on était en colère.
Oui, donc ils sont en colère et la colère s'est manifestée de différentes façons. Tout d'abord, plutôt dans la journée, il y a une délégation, disons-le, du collectif, des gens qui étaient représentatifs des différentes régions qui ont perturbé comment on appelle ça, la séance du Parlement, finalement. Ils étaient dans les gradins, ils se sont levés pour faire un manifestagie. Et ça, bon, c'était quelque chose qui était très à la mode il y a quelques années, mais qui l'était un peu moins depuis quelques temps, entre autres, parce que, bon, maintenant, perturber les travaux parlementaires, ça peut se valoir un bannissement à vie, en fait, de l'Assemblée nationale, comme on l'a vu avec les gens là, de cette île qui sont contre l'uranium. Et donc, il y a Elisabeth du collectif pour un Québec sans pauvreté qui explique de façon colorée son intervention à l'Assemblée nationale.
On est dans l'Assemblée nationale comme citoyens et citoyennes respectables dans les galeries en haut. À 11 heures, coup de sifflet, les pauvres sont en colère! C'était le début de la lecture du manifeste, alors là, au bout de trois lignes, je me fais sortir. Pas grave, Louise prend la relève. D'après Louise, Stéphane. D'après Stéphane, puis Lynn. Puis là, il n'arrête pas d'amener des polices. Puis là, il amène des polices. Puis les polices nous sortent, mais il n'y en a jamais assez. Puis là, ils me disent, ben, il y en a-tu encore beaucoup de votre gang? Puis je leur dis, ben, vous verrez bien, hein? Alors après Lynn, c'est Robert, puis c'est Mélanie, puis c'est Samuel, puis c'est Patrick. Là, c'est fini. Mais eux autres, ils vident les galeries. En bas, tout le monde est debout, les députés, les ministres, ça regarde, ça se demande. Dehors, qui c'est qui arrive en plus de la gang de policiers? La meute de journalistes. On n'en a jamais vu autant que ça! Les journalistes, ils disent, « Ouais, mais leur aviez-vous dit déjà? Pourquoi faire que vous prenez ce moyen-là? » Ben, je te dis qu'on leur a dit, ça fait des années qu'on leur dit. On leur dit 100 000 fois le 14 mai. On le répète dans les journaux. On leur écrit des lettres. On va les voir. On leur en parle. Ils n'écoutent pas. Alors là, ben, on l'a dit d'une façon plus frappante. Hein? Alors, la ministre elle-même est venue nous trouver, puis elle nous a dit des paroles gentilles. Puis on lui a dit, ben oui, vous êtes une nouvelle ministre, on comprend ça, on va se voir, oui, oui, on va se voir. Puis elle a dit, je vais vous écouter avec mon cœur. On lui dit, oui, votre cœur, madame, mais votre raison aussi, parce que les deux doivent aller dans le même sens. Après ça, ben c'est le bout obscur, hein? Là, on ne sait pas ce qui se passe dehors parce que nous, ils nous font descendre dans une petite salle en bas, là. Puis là, ils contrôlent les identités. Puis ils nous disent qu'on est en état d'arrestation. Ben là, c'est en état d'arrestation, mais c'est pour une infraction pénale. Au pire, on risque une amende de 15 000 $. Oh! Il n'y a rien, là! Bon, alors là, ça a duré comme, je sais pas, une demi-heure, hein, à peu près, puis du taponnage. Puis après ça, juste au moment de sortir, ben là, ils nous disent, le verdict du président de l'Assemblée nationale, nous sommes persona non grata pour le reste de notre vie, c'est-à-dire indésirable. Ben c'est comme du courriel indésirable. Nous sommes les spams de l'Assemblée nationale.
Le spam de l'Assemblée nationale. Hey, dis donc. Mais c'est pas tout, hein, parce que les manifestants ont quand même tenu à poser un geste qui était un peu inusité, qui était, ma foi, semblait en tout le moins très jouissif pour beaucoup, beaucoup de personnes. Imaginez-vous donc qu'ils ont passé aux 250-300 personnes sur place, chacun deux copies du plan de lutte à la pauvreté. Ils ont sorti une espèce d'immense déchiqueteuse pour déchiqueter les plans de lutte et le répandre devant l'Assemblée nationale et aussi permettre à chacun de déchirer son plan de lutte et de le mettre dans un sac de poubelle qu'ils ont lancé aux gardiens de sécurité avant de s'en aller. Donc c'est ça. Ben, bref, c'est ce que ça donne quand on rit du monde. Nous, est-ce que j'ai le temps de faire mon autre nouvelle canadienne? Oui,
je vais la faire vite, vite. T'es capable.
Hey, ben, je voulais vous parler de, ben, justement, là, on voit des petits gestes sympathiques comme ça. Et aussi la possibilité de répression. Il y a des endroits où est-ce qu'ils se contentent pas d'interdire l'Assemblée nationale. Il y a des endroits où est-ce que c'est un peu plus raide que ça. Entre autres, à Toronto, où, bon, on le sait, là, l'été passé, il y a eu le sommet du G20, ça a amené beaucoup de répression, mais ça continue, hein, parce que, vous voyez, le 17 septembre, vendredi, vers 22h30, il y a Alex Undert qui a été arrêté en face du domicile paternel par 7 agents de la police torontoise et de la GRC. Alors, Alex Undert, c'est un des militants qui avait été arrêté préventivement à la veille du sommet du G20. Il est notamment accusé d'être un des leaders d'une vaste conspiration anarchiste. Alors, son affaire à lui, c'est une histoire de fou. Alex est accusé d'avoir violé ses conditions de remise en liberté qui stipulent notamment qu'il ne peut pas participer à une manifestation publique. Or, quelques heures avant son arrestation, le militant, il participait à un panel post-G20 à l'université Ryerson. Et la police, même plus tôt cet été, elle assimilait aussi sa présence dans les médias à une violation de ses conditions de remise en liberté. Il y a une première tentative de remettre le militant en prison jusqu'à son procès qui avait échoué en août, parce que la Cour supérieure avait rejeté les arguments de la Couronne. Et le moins qu'on peut se dire, en fait, c'est que la police a une interprétation très, très large du terme « protest », qui est généralement assimilé à une manifestation. mais qui peut aussi signifier toute forme de protestation. Et donc, s'il proteste contre ses conditions de libération, de remise en liberté, ben il est en train de protester, donc il les viole, et bon, vous voyez le genre un peu. Alors, il y a Mohan Mishra de No One Is Illegal qui a réagi à ça en disant que « Nous sommes indignés par la nouvelle arrestation d'Alex. Il s'exprimait lors d'une table ronde dans une salle de classe de l'université aux côtés de professeurs, ce qui n'est clairement pas une manifestation publique. C'est encore une autre tentative pour faire taire Alex, une indication forte de l'intention de la police de criminaliser les idées, la dissidence et toute forme d'organisation communautaire efficace. » Et autre chose qui est tombée aussi sur notre desk, il y a Juan Pablo Lepore qui est arrêté à Montréal le 2 septembre pour des accusations de méfaits liés au sommet. Puis lui aussi passe en cours vendredi le 17 septembre à Toronto. Et puis ses soutiens s'attendaient à ce qu'il soit libéré parce que nous dit Mathieu Francoeur du comité de soutien à Juan dit que toutes les conditions sont réunies pour que Juan soit libéré dans l'attente de son procès. Il y a une personne qui a une situation financière stable, qui s'offre pour être son garant et s'assurer qu'il respecte ses conditions de libération. Il peut payer une caution importante, mais malgré le fait que le militant se soumette à des conditions très strictes pour ce type d'accusation-là, la couronne persiste dans son refus de le libérer en prétextant, tenez-vous bien, que le fils du garant a des liens avec les mouvements anarchistes. Et donc comme... c'est ça. On dit, nous, on est au Canada. Une personne vient d'être remise en prison pour avoir participé à un panel de discussion pendant qu'on refuse d'en libérer une autre parce que la famille de son garant proposé n'aurait pas les bonnes idées politiques. Alors, Mathieu Francoeur, il dit qu'il a l'impression d'être dans un mauvais film, sauf que c'est des vraies personnes qui croupissent en prison. Alors, il faut rappeler aussi qu'au total, il y a 1105 personnes qui ont été arrêtées pendant le sommet du G20 à Toronto. Et puis, de ce nombre-là, il y en a seulement, là, avec des guillemets, de seulement 278 finalement qui ont été accusés de quelque chose, les autres ont été libérés sans accusation. Et là, on a une poignée de militants, tout au plus une trentaine, qui font face à des accusations sérieuses de complot. C'est eux que l'État voit comme la tête du mouvement de protestation qui s'est emparé de Toronto finalement cet été. En plus d'imposer des conditions extrêmement restrictives, comme l'interdiction de manifester, d'organiser des manifestations, d'encourager à manifester, de parler à leurs co-accusés, etc., et des cautions très importantes, on mentionne quand même 100 000 $ dans le cas de Alex Undert. Donc, tout ça pour les neutraliser. L'État veut carrément les faire taire. Alors, il ne s'agit pas vraiment de jouer les vierges offensées ou les victimes, mais il faut reconnaître là, qu'il y a un glissement observable et que ce glissement-là est grave. Il y a un durcissement de la répression, c'est pas une lubie de l'esprit. En fait, depuis l'adoption de la Charte des droits et libertés, le crime de subversion, c'est-à-dire de vouloir renverser le gouvernement par des moyens pas démocratiques, c'était tombé en désuétude. C'était le passage à l'acte qui était criminalisé, pas l'expression d'idées subversives. C'était pas de dire « je suis anarchiste, c'est pour la révolution » qui était criminalisable. C'était en fait de passer à l'acte et de faire la révolution. Donc, depuis quelques années, il y a la police qui incluait les interdictions de manifester dans les conditions de remise en liberté des militants qui sont accusés à tort ou à raison de méfaits. Et cette limitation-là du droit de manifester avait été combattue avec succès par des militants montréalais comme Jack Gissin et Alexandre Popovic, qui avaient payé le gros prix d'ailleurs en restant en prison parce qu'ils refusaient de signer des conditions de remise en liberté. Et on en était venu à l'obligation de quitter toute manifestation qui cessait d'être pacifique. Donc, on respectait le droit de manifester. Sauf que là, on revient à l'interdiction de manifestation pure et dure. Évidemment, on n'est plus dans le district judiciaire de Montréal, on est dans celui de Toronto. Non seulement ça, mais en plus, on s'attaque carrément à la liberté d'expression en assimilant toute prise de parole publique à une manifestation. Alors voilà, il faut constater que en ce moment, au Canada, c'est la dissidence elle-même qui est criminalisée. C'est plus un slogan, c'est la réalité. Donc c'est un développement totalitaire pour le moins inquiétant et qu'il faudra combattre. Donc, c'était pas mal tout pour moi pour l'instant.
Continuons avec une autre manifestation auditive.
Oui!
On s'en va écouter du Anti-Nowhere League.
Sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec, vous écoutez Voix de fait.
For you. I shall give. We'll be right back.
Hey, vous êtes toujours à l'écoute de Voix de Fait, l'émission du collectif Anarchiste la nuit sur les ondes de CKIA 88.3. On tombe dans notre bloc international. Dans un instant, on va avoir Sam qui va nous parler de Russie, mais avant ça, on a Jenny qui nous parle de Suède.
C'est en Suède, c'est le gouvernement sortant de centre-droit qui a remporté les législatives le 12 dimanche dernier. Mais ce gouvernement-là, il a perdu la majorité absolue au Parlement, puis où l'extrême-droite va s'agir pour la première fois, occupant une position clé. Sur l'extrême-droite, il y a un nom assez ironique quand même, les démocrates de Suède, qui a réalisé une percée historique sur la scène politique suédoise, qui a remporté 5,7% des suffrages avec 20 sièges. C'est quand même beaucoup là, pour une première fois. Là, je veux dire, quand une partie de l'extrême droite est
rentrée. Sais-tu combien il y a de sièges au Parlement suédois?
Il y en a 349.
Oui, mais c'est quand même 20.
Fait que là, selon le résultat définitif, c'est la coalition gouvernementale de Frédéric Rendel qui a obtenu 49,2% des voix et 172 sièges. C'est le 249 contre 3 moins de majorité absolue. Il a devancé le bloc de gauche rouge-vert qui est né par la social-démocrate Mona Sahlin qui remporte 157 sièges. Dans le fond, le parti, dans le fond, centre-droit, ils ont dit qu'ils refusaient de coopérer ou d'être dépendants des démocrates de Suède, le parti d'extrême-droite. Le parti qui a remporté les élections centre-droit a dit qu'elle se tournait vers les Verts. Mais cependant, la dirigeante de ce parti-là va dire que ça va être très difficile pour nous, après ces campagnes, de regarder nos électeurs dans les yeux, de leur dire qu'on va coopérer avec ce gouvernement. Donc, dans le fond, on pourrait se retrouver avec de nouvelles élections en Suède, parce que le parti qui est au pouvoir, ben, il veut pas collaborer avec les extrêmes droites, puis les Verts, les sud gauche ne veulent pas collaborer avec eux autres. Donc, c'est pas qu'on ait des nouvelles élections dans ce pays-là. Puis, dans le fond, la percée historique de l'extrême droite dans ce pays-là, ben, ça confirme l'essor de mouvements populistes, xénophobes ou nationalistes en Europe. Dans le fond, l'entrée au Parlement suédois de l'extrême droite, ben, ça arrive à des succès de partis nationalistes, voire xénophobes aux Pays-Bas avec le PPV ou en Hongrie. En Italie, l'un des 6 pays fondateurs de l'Union européenne, le parti populiste anti-immigré, dont on a déjà parlé ici à l'émission de la Ligue du Nord, qui participe au gouvernement de Silvio Berlusconi, puis devient un des plus fidèles alliés. Puis l'extrême droite est aussi représentée dans le Parlement du Danemark, en Autriche, en Slovaquie, en Lettonie, en Bulgarie. Puisque du côté des élections européennes de juin 2009, l'extrême droite a réalisé un score à 2 chiffres dans 7 États membres, les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la Hongrie, l'Autriche, la Bulgarie et l'Italie, une performance entre 5 et 10% dans 6 autres États, la Finlande, la Roumanie, la Grèce, la France, la Roumanie et la Slovaquie. C'est pas mal ça. Puis dans le fond, ils disent que dans ça, la crise économique qui frappe le vieux continent explique en partie le regain de l'extrême droite en Europe. Il n'y a pas juste ça, les militaristes aussi l'islam qui est devenu assez privilégié de ces mouvements-là.
Oui, ben nos camarades européens en ont encore sur les bras pour un certain temps.
Mettons.
Oui, est-ce que tu nous mets notre autre, notre nouveau collaborateur, à voix de fait?
Bonjour, c'est Sam du collectif Amogleman, un collectif anarchiste au Saguenay. Je vais vous parler aujourd'hui de la menace de la droite radicale en Russie et de la résistance antifasciste pour y faire face. Une résistance dans laquelle les anarchistes jouent un rôle central. Bien que la Russie paraisse souvent d'un état autoritaire où ce que la liberté de manifester est très restreinte, les anarchistes, par des moyens d'action originaux, spontanés et directs, réussissent à se faire entendre par les cracks du mur de l'appareil répressif. Pour commencer, une chanson du groupe Stage Bottles, Russia.
Marching fascists, killing with a knife. singing with a useless voice, an unbearable noise. Russian anti-fascists keep the fight. Let's keep the fight all day or night. Russian anti-fascists keep the fight. Let's keep the fight all day or night. Control their crazy beasts. Reality is what you see. Others still refuse. But the underground's not sleeping. You know your enemies. You believe in what you do. You will win that war.
Si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme. Vous deviendrez un prêtre de la mort, implorant la guerre. Qui est le tordu qui a dit ça? Quelle est l'infecte petite folle perdue, l'espèce d'enculé de communiste qui vient de signer son arrêt de mort?
De retour à la droite radicale et la résistance antifasciste en Russie. La menace de la droite radicale en Russie puis ses fréquentes agressions sur des membres d'autres communautés ethniques ont soulevé de nombreuses dénonciations sur la scène internationale ces dernières années. En 2008, l'ONU dénonçait le manquement de la Russie à sévir contre le phénomène de la droite radicale, dont les bandes de skinheads néo-nazis qui agressent des personnes dans la rue et les parcs et s'en tirent souvent encore impunis aujourd'hui. 37 États africains, des communautés religieuses non orthodoxes de Russie et Amnesty International ont également dénoncé ce manquement envers des responsables de crimes haineux de façon organisée. Il est difficile de chiffrer le nombre de militants de droite radicale en Russie et encore davantage leurs sympathisants. Certains chiffres officiels comptent de 50 à 70 000 le nombre de skinheads en Russie, une culture où ceux qui s'identifient au fascisme occupent une majorité écrasante en Russie. Des centaines d'agressions ont lieu chaque année, un peu partout dans le plus grand état au monde. Les agressions sont commises par des skinheads, mais aussi des militants d'organisations formelles, des cossacks, des partisans hooligans de football, puis des gens ordinaires des communautés locales. Elles ont pour cible des ressortissants d'ex-républiques soviétiques, les gens de couleur, les autres sous-cultures et religions, les homosexuels, les antifascistes, les gauchistes, l'État, puis la police. Ces deux derniers étant plus liés avec l'augmentation de la répression contre la droite radicale. Ces actions ne se limitent pas à des agressions de rue isolées. Ça s'étend aussi à des attentats à bombes, des véritables pogroms, puis des tentatives d'exacerbation des tensions interethniques. Plusieurs organisations entraînent même des groupes paramilitaires. La droite radicale est un courant de pensée qui est situé politiquement à droite, à l'extérieur du cadre des partis conservateurs et libéraux, qui est caractérisé par la défense d'idées d'exclusion des groupes ethniques différents et ou d'homogénéité religieuse. Elle est composée de ces groupes qui, selon Mihai Varga, informels et formels, qui demandent l'exclusion des autres individus de la vie publique, des droits civils ou du territoire national sur la base des différences attribuées entre les êtres humains, d'appartenance à une minorité ethnique ou du groupe religieux, ou bien simplement par les traits physiques tels que des traits foncés ou bien la couleur des cheveux et des yeux. Ces groupes sont beaucoup formés sur la forme de groupuscules aujourd'hui, ce qui est une évolution certaine par rapport aux organisations qui étaient vraiment plus de masse dans le milieu des années 1990. Ces groupuscules sont réseautés entre eux puis ont une certaine autonomie. C'est une forme d'organisation qui leur permet d'échouer les forces de répression. Puis il y a ces composantes qui sont plus actives sur la rue. Ben, il faut aussi ajouter les centres intellectuels, les think tanks du mouvement, qui visent davantage à infiltrer la superstructure idéologique puis à répandre des idées xénophobes et racistes dans la population, finalement. Par rapport au pouvoir politique, les organisations de la droite radicale ont des rapports complexes. Il y a certaines organisations comme le mouvement contre une immigration illégale, le DPNI, qui dénonce certaines politiques de l'administration Medvedev-Poutine actuelle comme des politiques de fédéralisme multiculturaliste. En même temps, la droite radicale appuie la gouvernance de Poutine qui est vue comme un Russe qui préside avec une main de fer puis qui, notamment dans sa politique extérieure, ben, il réalise un programme politique nationaliste minimal, selon ben des militants de la droite radicale. Les deux guerres en Tchétchénie puis plusieurs attentats attribués à des extrémistes séparatistes tchétchènes, ça a permis au pouvoir de détourner l'attention d'une population qui est lourdement appauvrie par une transition capitaliste, détournée vers des sentiments xénophobes puis nationalistes. Puis même dans la police, qui est très corrompue puis criminalisée elle-même, des militants de la droite radicale occupent des postes. Puis aussi, il faut dire que les idées xénophobes transparaissent fortement dans le travail quotidien de la police. Quand j'étais à Moscou, à l'hôtel Ismailovo, dans un quartier tchétchène, j'étais témoin des demandes agressives à quelques pas de notre hôtel, de demandes agressives de papiers d'identification qui étaient successives, puis aussi d'arrestations, sur la base de la couleur de peau par les policiers locaux. Alors que la Russie affirme de plus en plus une volonté de sévir contre les groupes de la droite radicale, les institutions en place sont vraiment très très peu efficaces. On peut même se demander s'ils vont pas dans une direction inverse. Le Centre contre l'extrémisme du ministère de l'Intérieur, le Centre, manquant d'une définition suffisante du mot extrémisme, va s'attaquer beaucoup aux groupes de défense des droits humains, puis aux groupes antifascistes, paradoxalement aux motifs qui ont mené à sa création. On relève plusieurs cas d'abus graves de droits humains et de torture pour faire signer des déclarations en rapport avec les agents du centre. Puis dans les deux dernières années, même si moins d'agressions par la droite radicale sur les gens d'origine ethnique différente ont été répertoriées par le Centre Sauva, la droite radicale s'est davantage organisée, elle s'est politisée, puis elle s'est régionalisée. Puis certains liens entre des organisations ont été formés. Il y a une grande campagne contre l'immigration illégale qui a reçu un soutien très large, puis beaucoup d'écho dans la population. Puis il est assez fréquent de rencontrer des gens portant des symboles de l'extrême droite à Moscou, particulièrement dans les gares de train. Aussi, ce que je trouve particulièrement préoccupant, c'est l'utilisation qu'on peut fortement suspecter de groupes de droite haineux de la droite radicale comme mercenariat en complément des agences de sécurité privée puis de police pour mettre fin de façon brutale à des protestations dont les campements écologistes d'Angarsk en 2007 contre le nucléaire où l'anarchiste antifasciste Ilya Borodenko est décédé des suites de ses blessures, puis aussi Kim Ki en 2010, un autre campement. Alors, sur ça, on va passer à une autre chanson, la chanson Anne Frank's Army de la Moscow Dead Brigade.
Hey Cole, let's go! We ain't dead yet, no! And a friend guard me! Never stop, let's go! I'm Cody Flow, bro! Edge of the death flow! All at war! Time to grow! What do you stand for? Stop us if we're not the police. Yeah. You can talk about to death, but the memory lives. Standing castration down, mass grave for the children. And a frag, one blood, one voice of the million. Dark feelings,
cause it's quite stronger today.
Hate killings,
still not the sky to they pray.
Look the other way, pretend you don't see no more. Racist crime pay while you just define the war.
Started got the shot, yes, no, hardcore, real war. Human rights, and the risk is shot at the old door. Stop sleep and ignore, waiting more, but the floor. Fight is raw, but it's getting spilled, but it's still sore.
Blood's getting spilled, kids are killed, damage done. Another crime, mom, another son, step another scar.
The only bits are different, but the game is still the same. Then it's one of a pain, but the end, the rest is shame.
Hey, go, let's go, we ain't dead yet, no. And a friend called me, never stop, let's go. I'm Cody Flow, bro, edge of the death flow. All at war, time to grow, what do you stand for? Hey, go, let's go, we ain't dead yet, no. And a friend called me, never stop, let's go. I'm Cody Flow, bro, edge of the death flow. All at war, time to grow, recognize the real flow.
Lights in the dark, black colors in the night. Religious fighters, sweaty gals, burning infidels alive. Shit, no Sam died, the shit you must fight. Know your enemy, recognize the darkness from light.
Stand side, against light, shine bright, stay tight. Fuck bitches, love and drive. Don't believe the fucking hype. Fuck this shit, it's a line, no matter black or white. Might makes right tonight, who's standing worldwide?
I can listen, better steady, aren't the man I wanna say. We are the Frank Army and we get the fucking stay. Run the brain to your guys, don't you know our name is Legion. Get the money, color, and the nation and religion. Give you the fiction, we'll give you empty gas to get past it. Now we're gonna see how long you last, a bit faster. No remorse, the best fucking horse. Repeat the cuddle, saying with the damn jokes while you're gone.
Hey, go, let's go, we ain't dead yet, no. And a friend called me, never stop, let's go. I'm Cody Flow, bro, edge of the death flow. All at war, time to grow, what do you stand for? Hey, go, let's go, we ain't dead yet, no. And a friend called me, never stop, let's go. I'm Cody Flow, bro, edge of the death flow. All at war, time to grow, recognize the real flow. In combative camps, you look at life through different lens. You never get that there remains of your slaughter friends. You smile and shake the hands of precious friends you both defense. And I don't give a fuck what you mumbling in your defense.
Another politician tries to rewrite the past. We gotta get you with this life, stick to stand fast. We saw the death, that's the battle for survival. Where's the passion, that's the game, and now we'll come across the mire. Spread the lies, stick to my blood, that you got some. But history can be rereaded, cause it takes the blood. Don't forget, we're not the fucking run. Someday we'll find a way to get your motherfucking mouth shut. We want your guns, and everybody's losing fortune. We're nothing but an enemy, and now we love and hurt you. Your mother shoot your fortune, what should I do? Let's make the bitch do it, you're just running there with you.
Hey, go, let's go, we ain't dead yet, no. And a friend guard me, never stop, let's go. I'm Cody Flow, bro, edge of the death flow. All at war, time to grow, what do you stand for? Hey, go, let's go, we ain't dead yet, no. And a friend guard me, never stop, let's go. I'm Cody Flow, bro, edge of the death flow. All at war, time to grow, recognize the real flow.
Ce que vous allez combattre, monsieur, dames, des barbares qui détruisent le patrimoine. Nous avons des convictions démocratiques.
Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie?
Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes.
Nous sommes très fiers de vous. Merci.
De retour à la droite radicale et la résistance antifasciste en Russie. Le mouvement antifasciste en Russie regroupe toutes les formes d'opposition à la droite radicale et aux groupes qui se réclament du fascisme. Plusieurs groupes qui font la défense des droits de l'homme, comme Mémorial et le Sans Sova, ont produit des événements de sensibilisation, de la recherche et publié plusieurs publications sur le danger de la droite radicale en Russie, un pays qui compte aujourd'hui le plus grand nombre de partisans du fascisme sur toute la planète. Plusieurs experts de la question, par exemple Nikolai Gourenko, tué par balle à son domicile le 19 juin 2004, ont travaillé à faire connaître devant la justice les motivations idéologiques des crimes, publications et activités fascistes. L'antifascisme radical, pour sa part, il compose une autre partie du mouvement. C'est davantage un mouvement jeune qui est actif puis qui est en pleine croissance. L'antifasciste radical, malgré ça, est pourtant la cible de très nombreuses attaques de la part des groupuscules de la droite radicale, des forces de police aussi. C'est une frange qui prône l'action directe, puis la confrontation contre la droite radicale, puis ses événements. Puis elle s'est surtout concentrée dans les villes de Moscou puis de Saint-Pétersbourg, même si on retrouve des antifas dans de nombreuses villes russes, puis dans les pays de l'ex-Union soviétique aussi. C'est surtout apparu l'antifasciste radical vers la fin des années 90, autour des sous-cultures, punk, hardcore, rap. Puis vers 2005, il a commencé à apparaître des contre-manifestations contre des événements importants de la droite radicale. Puis ça se faisait par des réseaux d'activistes antifascistes. Puis avec vraiment beaucoup de courage, parce que les militants de la droite radicale sont souvent armés. Le 17 septembre 2006, près d'une cinquantaine d'antifascistes ont confronté près de 300 personnes qui étaient rassemblées à Saint-Pétersbourg à l'appel du mouvement contre l'immigration illégale. Les militants de la droite radicale, en résultat, ont blessé deux antifascistes à coups de couteau puis à barre de fer. Puis ils ont passé, paradoxalement, en procès trois antifascistes. À partir de ce moment, les antifascistes y furent de plus en plus à cible des attaques planifiées puis préméditées. Par exemple, des attaques au couteau, au fusil, à la bombe, à la seringue usée, puis etc., ce qu'on peut pas inventer. Des listes noires d'individus à abattre avec les coordonnées de leur résidence qui ont apparu sur Internet. Parallèlement, le mouvement antifasciste a subi une répression de plus en plus forte des forces de police. De nombreuses fausses alertes à la bombe ont donné prétexte à la police pour mettre fin à plusieurs concerts identifiés à l'antifascisme. Pour l'année 2009, le Centre Sauva a compté 13 attaques violentes par des militants de la droite radicale sur des concerts identifiés à l'antifascisme dans 8 régions différentes. Plutôt que tenter de mettre fin aux agressions violentes et meurtrières, il y a certains néo-nazis qui cumulent plus de 100 meurtres. Le Centre contre l'extrémisme du ministère de l'Intérieur, le Centre, mène une lutte active contre les activistes antifascistes. En 2010, à Nijni Novgorod, 14 antifascistes ont été arrêtés au cours d'une manifestation légale du 1er mai, puis ont été torturés par les agents du Centre pour les contraindre à déclarer qu'ils avaient organisé des actions contre des néo-nazis. Tout cela alors que plus d'une dizaine d'activistes antifascistes ont été tués par des militants fascistes. Suite à l'assassinat de Stanislav Merkelov, Anastasia Baburova, Ilya Jabarit, Ivan Kotoskoy en 2009, une mobilisation de près de 1000 personnes, dont beaucoup d'anarchistes, eut lieu à Moscou le 19 janvier 2010, malgré des attaques de néo-nazis puis de la forte répression des unités policières et anti-émeutes. Le même jour, des actions étaient aussi organisées dans une trentaine de villes russes, puis aussi dans d'autres villes au travers de la planète, pour commémorer la mort de Stanislav Merkelov puis d'Anastasia Baburova. L'arrestation d'Alexei Gaskarova, puis de Maxim Solopova, deux militants sociaux connus en Russie, après une manifestation très spontanée où l'édifice de l'administration locale de Khimki a été attaqué par près de 400 antifascistes et anarchistes, une manifestation qui a complètement dépassé les forces policières par ses tactiques, suscite présentement des protestations à l'échelle internationale. La manifestation était liée à la lutte pour la préservation de la forêt de Khimki, une bande forestière de la ville de Moscou, qui est menacée par un projet d'autoroute. Un campement de protestation avait été établi pour bloquer directement la coupe et ce campement-là a été attaqué le 23 juillet de façon visiblement coordonnée par un groupe d'une cinquantaine d'hooligans portant des signes fascistes, des agences de sécurité privées, puis des forces policières. 3 ans et 2 jours avant, Ilya Borodenko avait été tué dans des circonstances similaires dans un campement antinucléaire en Sibérie près d'Angarsk. Dans les deux cas, de sérieux doutes quant à l'utilisation de groupes de la droite radicale comme mercenariat par les autorités ont été soulevés. Le mouvement antifasciste russe démontre aujourd'hui une détermination et une ardeur exemplaire pour ses camarades du monde entier. Depuis la manifestation sauvage du 28 juillet, les autorités ont mené une véritable chasse ouverte aux activistes antifascistes. Ils ont attaqué plusieurs concerts, puis ont arrêté sans preuve Alexei Gaskarova puis Maxime Solopova, qui pourraient obtenir des peines de prison jusqu'à 7 ans pour hooliganisme. Une campagne internationale d'action et de pression sur les autorités russes s'est déroulée du 17 au 20 septembre pour la libération des otages de Khimki. En terminant, ben je dirais que la transition capitaliste vit encore des moments d'instabilité en Russie avec la présente crise économique. Je dirais aussi que le parti de Medvedev puis de Poutine, Russie unie, il joue au funambule en se présentant comme le camp démocratique durant les élections, puis en démontrant paradoxalement une préférence croissante pour un nationalisme autoritaire, moussé par les événements, comme, particulièrement, les conflits interethniques qui sont toujours pas réglés puis qui prennent de plus en plus d'expansion. Mais c'est ce qui termine cette présentation. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le blog du collectif Amar Goldman, dont vous trouverez l'adresse sur lecausecommune.net. Et puis, en terminant, rappelons liberté immédiate et conditionnelle pour Maxime et Alexei.
Hey, vous êtes toujours sur les ondes de CKRL 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de Fait. C'était quoi ça, Farouko?
Black Flag avec Police Story.
Et il nous reste quelques minutes pour introduire notre nouvelle chronique, la blague anarchiste de la semaine, avec notre ami Thomas du collectif local de Montréal de l'UCL.
Combien est-ce que ça prend d'électeurs et d'électrices pour changer une ampoule? Aucun et aucune, car ils et elles ne peuvent rien changer. Combien est-ce que ça prend de sociaux-démocrates pour changer une ampoule? Un seul, mais il doit avoir été élu au sein d'un parti politique majoritaire dont le changement d'ampoule est au programme. Combien est-ce que ça prend de conservateurs pour changer une ampoule? Aucun, car les conservateurs, ça s'éclaire à la chandelle. Quelle est la seule qualité des patrons? C'est d'être biodégradable. Quelle est la seule présence aussi redoutée que celle des patrons? C'est celle des saints patrons. Pourquoi les personnes designers sont-elles les plus malheureuses dans leur travail? C'est parce que sous n'importe quel régime politique et économique, elles devront toujours travailler avec des patrons.
Hey, c'est l'heure des blocs de voix de fait. Il y a nos camarades... Il y a nos camarades du collectif Emma Goldman qui vont lancer le numéro 29 de Cause Commune, le journal de l'UCL à la JT, au 251 Dorchester, samedi 25 septembre vers 19h, dans le cadre de la journée autogérée, qui, elle, commence à 10h30. On en a parlé la semaine dernière. C'est une journée d'atelier autogéré, c'est-à-dire que le matin, on ne sait pas encore c'est quoi l'horaire de l'après-midi, mais on décide ensemble de quoi qu'on veut parler, puis ça risque de mener à des débats intéressants. Donc, tout ça est à la JT 251 Dorchester. Le numéro de Cause Commune est spécialement dédié au dernier budget du gouvernement Charest, les fausses et les vraies alternatives, ainsi que la lutte qui reste à finir pour montrer les mesures, pour contrer les mesures néfastes. Sinon, mardi prochain, les mardis de l'anarchie pour leur deuxième séance de la saison. Donc, le 28 septembre, Trotsky, Trotskisme et Trotskiste. Donc, à 17h, il y a la table de la page noire et des discussions informelles. À 19h, il y a la diffusion en direct de l'émission radiophonique Ainsi Squat-t-elle. Ça, c'est l'autre magazine libertaire sur les ondes de CKIA. Et à 20h, il y a une conférence Trotsky, Trotskisme, Trotskiste. Ouf! Historique et regard critique sur les récents développements du trotskisme au Québec, au Canada et dans le monde avec Richard Saint-Pierre du groupe international ouvrier. Rappelons que tout ça se tient à la JT au 251 Dorchester. C'est une soirée de discussion politique. Et c'est pas mal ça qui met fin à cette édition de Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit. Vous étiez en compagnie de Nicolas,
Gianni
et Farouco.
Et n'oubliez pas de visiter notre blog au Voix de fait avec un X et un S au plein point blogspot.com.
Voix de fait avec un X et un S point blogspot.com. Merci de me l'avoir rappelé.
La famille en peinture, le bord de la ville, le père de la ville. Prétend cette école, il ne veut surtout pas faire allusion. On reste des banlieues qui font le buzz. Assassiné, assassiné.